Dieu et Père, on te donne à nouveau cette réunion. On prie que tu sanctifies nos cœurs, nos pensées, nos lèvres. Et que ta parole soit traite dans nos cœurs. Que ça ait un effet dans nos cœurs et que ça ne nous laisse pas pareil. Ça ne nous laisse pas les mêmes. Amen. Merci Seigneur. Oui Seigneur. On va continuer ce soir. On va encore continuer avec le fait de connaître Dieu en tant que le Saint, celui qui est le Saint d'Israël. C'est pas juste connaître une doctrine ou connaître la Bible. Tu peux connaître la Bible. Les Juifs, ils connaissent la Bible. Ils connaissent les Écritures saintes, spécialement les scribes et les pharisiens et les chefs. Ils sont vraiment versés dans la parole. Ils l'étudient et ils la connaissent si bien. C'est leur profession, chaque jour, tout le temps. Les scribes et les pharisiens, les gens religieux, ont une responsabilité dans ces jours. Mais connaître Dieu, le Dieu vivant, c'est quelque chose de différent que d'étudier la Bible. Si connaître la Bible, étudier la Bible était suffisant, alors il y aurait vraiment des véritables sacrificateurs partout. Mais connaître Dieu, de le connaître, c'est écrit que le peuple de Dieu servait de tellement de manières, mais en fait il servait un nouveau Dieu. Ils étaient tellement actifs. Tu peux faire des œuvres chrétiennes. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire aujourd'hui. Partout. Partout, tu peux voir ça. Mais tu vas être perdu dans ces activités. Tu vas te perdre. Parce qu'une chose qui est plus importante, c'est de connaître le Dieu vivant lui-même. Si tu là, lui, tu as tout. Si tu as tellement de connaissances de la Bible, mais tu ne le connais pas, lui, et tu ne l'expérimentes pas, lui, alors c'est vain. Mais notre Dieu est un Dieu magnifique. Ayons ce désir aujourd'hui de le connaître. J'ai connu des gens qui connaissaient tellement bien la Bible. Et ils avaient lu tellement de livres. Ils connaissaient tellement d'enseignements, de conférences, d'entraînement. Je suis passé au travers de certains, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Beaucoup de choses profanes et des choses terribles. Nous avons tous besoin d'arriver à ce point pour voir que juste connaître la parole ne va pas nous changer. Paul était un exemple. Il connaissait les Écritures. Il était le meilleur étudiant de Gamaliel. qui était le meilleur enseignement de ce temps. Et ce professeur était le meilleur. Mais il ne connaissait pas Dieu. Alors, quand le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas et lui l'a éclairé, Paul est tombé. Saul est tombé à terre, ébloui par cette lumière. Et ça a changé sa vie. Ça a vraiment changé sa vie. De connaître le Dieu vivant, de le voir, de l'expérimenter d'une telle manière, ça a un effet, un changement. Donc aujourd'hui, à la fin de cet âge, nous devons avoir ce désir. Père, je veux te connaître. Même Paul, il savait tellement de choses. Il a écrit même ses épîtres. Il écrit aux Philippiens, il écrit qu'il veut encore connaître le Seigneur. Et aujourd'hui, après avoir été pendant tant d'années dans l'Église et avoir lu la Bible, d'avoir vu tant de choses dans la Bible, je dois vous confesser que mon désir n'est pas de savoir plus. Mon désir, c'est de le connaître. Si je ne le connais pas, si tu ne le connais pas, tu ne sais rien. Le connaître est tellement précieux. Que le Seigneur ouvre nos yeux dans ces jours, afin que nous ne sachions pas juste ce qu'est la sainteté comme une chose, mais que nous réalisions que Dieu est saint et de le saisir. Et ça va vraiment nous changer à son image. La doctrine ne va pas te changer à son image, mais quand tu le vois, quand tu le vois face à face, alors là, avec tes yeux intérieurs, quand tu le vois, il se révèle à toi. Ça va te changer. Alors, connaître Dieu, spécialement en tant que le Saint, c'est vraiment précieux. Ah, Moïse a vu dans le buisson ardent. Il ne savait pas que c'était Dieu, mais Dieu lui est apparu dans la forme d'un buisson ardent. La première chose qu'il voulait lui montrer, c'est qu'il est saint. Il est saint. Donc, Moïse a dû... Le Seigneur a dû dire à Moïse, enlève tes chaussures, parce que ce lieu est saint, ce lieu est sanctifié. Dieu est un Dieu saint. Pourquoi on porte tous des chaussures ici? Pourquoi? Parce que le sol est sale et tu veux garder tes pieds propres. Mais quand tu arrives chez moi, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves tes chaussures. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas amener la saleté de tes chaussures dans ma maison. C'est la même chose si je viens chez toi. Je vais aussi enlever mes chaussures. Si tu as 10 invités et qu'ils portent tous leurs chaussures, qu'est-ce que tu fais une fois qu'ils sont partis? Tu commences par aspirer, ensuite tu dois encore passer la serpillière, panacée. Ça signifie que la première chose pour être saint, c'est qu'on doit être nettoyé par le précieux sang de l'agneau. N'amène pas toute ta saleté. C'est un bon exercice. C'est vraiment un bon exercice. Mais je ne vois pas cette... Je n'ai pas vu cette pratique dans les dernières années, les dernières 20 ans. Dans les premières années, même avant de commencer à prier, on commençait en disant « Seigneur, je viens dans ta présence, mais lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi. » Mais maintenant, quand on prie, et je vois tellement d'entre nous qui prions, on n'a aucun sens, aucune réalité de « Seigneur, lave-moi. Seigneur, je prends ton sang précieux. Je prends Christ comme mon offrande pour les transgressions. » Rappelle-toi, il dit « Personne ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. » Il fallait le jour des expiations, sans ces expiations. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas aller dans la présence du Seigneur. La fête de la réconciliation était pour ça. Mais si tu attends et c'est juste à la fin que tu viens au Seigneur en lui disant « Lave-moi », c'est pas bon. Croire au Seigneur n'est pas suffisant. Est-ce que tu crois que c'est juste en croyant à lui que tu peux venir? Tu peux juste attendre la fin et puis juste t'es sauvé, donc ça suffit. Mais non. On voit dans Hébreux 10 et Hébreux 4 que quand tu es sauvé, tu dois encore avancer. Et ensuite, à quoi te sert au chapitre 4 la hardiesse? Une conscience purifiée va te donner la hardiesse, la pureté et la sanctification. Pour ça, on doit être dans la pureté et la sainteté pour s'approcher. D'avoir cette conscience qu'on prend le sang précieux pour être lavé par l'eau précieuse, l'eau vivante, pardon. On a peu cette conscience. Connaître Dieu en tant que le Saint, c'est très important. Et maintenant, on arrive au Fils. Le Fils était déjà saint avant même d'être né. L'ange Gabriel est allé dire à Marie, le Saint, celui qui est saint, va naître de toi. C'est le Fils de Dieu. Il est le Saint. Souvent, on vient au Seigneur comme le Sauveur. Oui, c'est juste. Bien sûr, il est notre Sauveur. Mais il est un Sauveur Saint. Et là, on arrive au point 2D. Le Fils s'appelle le Saint. Pour nous aujourd'hui, après avoir été sauvé et être né de nouveau, pour venir à lui, après être venu à lui en tant que le Sauveur, tu dois venir à lui en tant que le Saint. Et il est le plus saint. Le Saint des Saints en français. Ce merveilleux Dieu est saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Pour le connaître en tant que celui qui est saint, dans sa conception, même dans Marie, il a été conçu dans la, par le Saint-Esprit. Nous sommes tous nés dans le péché. Le psaume 51 le dit. J'étais né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Donc, même avant de naître, tu étais déjà dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Psaume 51, 7. Mais lui, sa naissance même, elle est particulière. Elle est par le Saint-Esprit. Même sa conception est sainte. C'est pour ça qu'il est le Saint. Il n'est pas juste n'importe qui. Donc, de le connaître en tant que celui qui est saint, si tu as cette conscience en toi, tu vas réaliser que tu n'es pas juste en lien avec le Sauveur. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 6, 7? Pas verset 7. Nous avons un souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle sorte de... Ah, c'est pas juste un sacrificateur. Il est saint. Il est sans faiblesse. Est-ce que tu es sans faiblesse? Nous sommes des dangers. Fais attention, toi tu es dangereux. Et parfois nous sommes des dangers, mais sans même en être conscients. Mais on fait beaucoup de choses dangereuses. Le Seigneur, il est sans tâche. Hébreux 7, 26. Il est le saint. Il est séparé du péché. Est-ce que tu connais et tu apprécies un tel souverain sacrificateur qu'on a dans le Seigneur Jésus? Tu connais les versets. On les connaît tous. Tu les as lus déjà souvent. En gardant les fêtes, tu as déjà lu ce verset. Mais est-ce que tu as souvent réalisé qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs? Souvent, on n'a pas tellement conscience de ça. C'est parce qu'on n'y prête pas attention. On est passé dessus. On l'a lu. Ah ouais, ok. Ouais, je sais. Ah ouais, je l'ai déjà lu. Mais il n'y a pas une conscience intérieure qu'on a un tel souverain sacrificateur. Il est vraiment un tel souverain sacrificateur. Des fois, on s'en fiche un petit peu. On est là, oui, il est notre sacrificateur, mais on n'est pas si spécifique dans notre connaissance de sa personne. Je suis pas sûre de vraiment le connaître si. Ah, je suis pas sûre de te connaître aussi bien que ton père te connaît. Moi, je te connais pas tellement. Je te connais en soi. Je te connais, mais sans vraiment te connaître. On sait que le Seigneur est notre grand souverain sacrificateur. Mais on n'a pas vraiment cette conscience intérieure de venir pour le connaître. Est-ce que je te connais? Pas vraiment. Je connais ton visage, je connais ton nom. Et je sais aussi que tu étudies l'architecture. Je sais où tu vas à l'école, où tu fais tes études. Mais si quelqu'un me demande plus à ton sujet, je vais me gratter la tête. Parce que je ne te connais pas. Et de même que tu ne me connais pas. Et ça, c'est la manière dont on connaît le Seigneur Jésus. C'est qu'on le connaît, mais en fait, on ne le connaît pas vraiment. C'est pourquoi, là, on réalise pourquoi Paul disait « Je veux te connaître ». Il était conscient qu'il ne connaissait pas assez cette merveilleuse personne. Et si tu veux expérimenter plus de lui, tu dois plus connaître à son sujet. Tu dois t'approcher de lui. Tu dois avoir un désir et lui demander « Seigneur, montre-moi ». La première chose que Moïse a apprise, c'est que Dieu est un Dieu saint. Même sur le mont Sinaï, tout le peuple savait qu'il était le saint. Il ne pouvait même pas toucher la montagne, ni homme ni animal. Peu importait qui ils étaient, qui ou quoi ils étaient, ils ne pouvaient pas s'en approcher. Alors, ne crois pas que ce soit simple. Ne crois pas que c'est simple. Nous ne sommes pas si saints. Le Seigneur est le saint, celui qui est saint. Et il y a quelque chose que j'ai ajouté au résumé. Sa conception est vraiment spéciale. J'apprécie sa conception. C'est pas juste de la connaissance. Oh, il est né de la Vierge Marie. Et tu crois qu'elle est toujours vierge? Non, en fait, elle n'est plus vierge. Ça, c'est juste une doctrine. Mais personne ne demande pourquoi la Vierge a été enceinte. Pourquoi? Parce que le péché est transmis par l'homme. Adam, ensuite Abel, et ensuite ça continue. Donc tu peux vraiment voir que toutes les naissances sont par la semence de l'homme. Et donc depuis Adam, le péché est venu de génération en génération. Mais le Seigneur Jésus, sa naissance n'était pas par la semence d'un homme, mais il est né d'une vierge. Et sa conception n'est pas au travers d'aucun homme. Ce n'est pas d'un humain déchu. Et donc le péché n'a pas été transmis. le péché ne lui a pas été transmis, parce qu'il a été conçu par l'Esprit. Donc, même déjà dans le ventre de sa mère, il était appelé celui qui est saint. Il était appelé le saint. Nous devons apprécier cela. Il n'a aucun péché. 1 Jean 3. Le péché n'existe pas en lui. Il n'est même pas nommé en lui. Alors que David, lui, peut dire que déjà dans le ventre de sa mère, il était déjà pécheur. Mais avec le Seigneur Jésus, le péché n'est pas en lui. Dans 1 Jean 3. Il est le seul être humain né sur cette terre qui n'a aucun péché. Et toi, tu voudrais prétendre que le péché n'est pas en toi? Non. Paul dit, le péché est attaché à ma chair. Dans ma chair, je sais. Le péché est attaché à moi. C'est pourquoi il parle d'un corps de péché. Et on a tous des problèmes avec ce corps de péché, cette chair. On la traîne avec nous. Et peu importe où tu vas, peu importe où tu la traînes, tu prends avec toi cette tentation. C'est difficile de résister.
And then it says here in 2 Corinthians chapter 5,
dans 1 Corinthiens 5, à la fin, il n'y a aucun péché. Il ne connaîtra pas même, il n'a même pas expérimenté le péché. Parce qu'il est Dieu, il est si pur. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'a connu aucun péché. Il n'a pas même touché au péché. Il n'a pas existé en lui. 2 Corinthiens 5, 21. Il n'a eu été aucune exposition au péché. Ça ne signifie pas qu'il ne savait pas ce que c'était le péché. Bien sûr, il savait. C'est pas une connaissance de la part de la tête, mais il n'a pas expérimenté le péché. C'est pour cela que Dieu peut faire de lui le saint. C'est pourquoi il est le seul à être qualifié pour être notre offrande pour le péché. Il a été qualifié pour porter sur son corps tous les péchés de la terre. On le prend pour acquis. On n'apprécie pas vraiment qu'on a été lavé. C'est pourquoi on prend le sang du Seigneur d'une manière assez légère. Un peu comme je prends une douche. Oh ben ça va, je prends mon savon, je me douche. De manière tellement commune. Mais la manière dont le Seigneur lave nos péchés. Tous les... En 33 ans, toutes les choses au travers desquelles il est passé. Est-ce que tu peux imaginer? 26. Quel âge as-tu? 26 ans. T'as jamais péché? Non. 26 ans de péché. Ça fait une quantité abominable de péché. Et le plus vieux on est, le plus de péchés on a commis. Mais le Seigneur, il a traversé toute sa vie. Tenté, mais sans péché. Il a été victorieux. Il a été testé en tellement d'aspects, juste comme nous, mais il a commis aucun péché. Est-ce que tu apprécies ça? Qu'il est un tel saint sauveur. Je n'ose même pas imaginer toutes ces idoles, Bouddha et autres, qui sont appelés saints. Je n'ose même pas imaginer combien de péchés ils ont commis. Quand on était en Thaïlande, dans le lieu qui est celui qui est à la tête du bouddhisme, là-bas, il a fait les choses les plus abominables, immorales. Et pourtant, il est à la tête, il est au sommet du bouddhisme. Regarde le pape et tous les prêtres dans l'église catholique. Il y a des dizaines de milliers. Je ne sais pas combien d'enfants ont été abusés, même aux Philippines. Un pasteur qui est un prêtre qui a été exposé encore par rapport à ça. Mais la religion, c'est vraiment profane. Mais notre Seigneur Jésus, toutes les sortes de tests au travers desquels il est passé, en restant saint et victorieux. On doit vraiment apprécier cela. Il n'a commis aucun péché. Il a été tenté en toute chose, sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il peut nous aider. C'est parce qu'il a traversé ça et il a gagné. Et bien sûr, verset 26. Il est séparé des pécheurs. Et maintenant, il est bien au-dessus. Quel sauveur saint nous avons. Nous devons connaître cela. Maintenant, nous devons connaître cela, connaître ce Rédempteur merveilleux. C'était Hébreux 7, 26 de nouveau. C'est pourquoi on doit tous apprécier vraiment, comme Ésaïe a marqué au chapitre 53, qu'il est passé au travers de toutes sortes de tests. Nous, on souffre juste un peu et on est déjà perdu. juste un tout petit peu de ce dont on a l'habitude, un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, et déjà on se plaint. Même juste pour une courte période, déjà on se plaint. Est-ce que t'es comme ça? Je sais pas, peut-être que tu ne l'es pas. Qui n'est pas comme ça? Si tu n'es pas comme ça, lève la main. On est comme ça, juste un tout petit peu. Une toute petite souffrance. Juste tes parents te corrigent un tout petit peu et déjà, t'as des larmes qui coulent le long de tes joues. Tu peux plus dormir la nuit. Déjà, on réagit. On ne peut pas supporter ça. Mais le Seigneur, il est passé au travers de toutes ces souffrances. Et on a chanté ce soir d'être à son image. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ce chant? Il est magnifique. C'est une très belle mélodie aussi. Mais ça prend vraiment du temps d'avoir dans le cœur ce désir. Ne sois pas effrayé quand tu retournes d'où tu viens, que tu vas tout oublier. Mais non, le Seigneur est avec toi. Si un tel Christ habite en toi, partout où tu vas, il sera le même. Si ça dépend juste des conférences, alors je te conseille plutôt de rester chez toi. C'est pas nécessaire de venir. Mais quand on vient dans la communion, ça nous éclaire pour que quand on retourne chez nous, on puisse vraiment mettre en pratique, qu'on puisse mettre cette parole en pratique, expérimenter Christ. C'est pour ça qu'on a les conférences. Mais si tu te lèves de cette salle et tu oublies juste, ça ne sert à rien de venir. Vraiment, parce qu'on n'est pas juste là pour connaître quelque chose, pour savoir quelque chose à ce sujet. Mais on est là pour connaître Christ ensemble. Et une personne si sainte vit en nous. En toi, en moi, en chacun de nous. La conférence ne peut pas te suivre partout où tu vas. Et ce sujet dont on parle durant cette conférence va te suivre partout où tu seras. Et à la fin de Matthieu, il dit : je suis avec vous. Je suis avec toi si tu agis bien. Non. Mais il dit : je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Matthieu 28, 20. Jusqu'à la fin du monde. Même si tu tombes, le Seigneur n'a pas peur de tes erreurs. Il sait. Il sait que toi et moi, on va beaucoup tomber. On va faire beaucoup d'erreurs. Si tu tombes 7 fois, il sera là 7 fois. 70 fois. Il va te relever 70 fois. Même 7 fois, 70 fois. C'est pour ça que le pardon, c'est 7 fois, 70 fois. Mais si c'est seulement 7 fois, alors... Mais non, le Seigneur te relève chaque fois. Et on va tous tomber. Le Seigneur va attendre jusqu'à ce que tu te tournes. Mais pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous ensemble? Parce qu'on a ce cœur. On a ce cœur. Je ne pense pas que tu sois venu jusqu'en Californie juste pour voir quelque chose ou pour une visite. Mais on est venu parce qu'on veut suivre Christ. C'est lui qu'on veut poursuivre. Poursuivre la sainteté. Et c'est en voulant le suivre que... On va appliquer de même qu'à l'école, dans les études, quand tu as un cours, ensuite tu rentres à la maison et tu l'appliques, tu l'exerces. On doit tous apprendre cela, être volontaire pour souffrir. Souvent, beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à souffrir. Mais on doit être prêt à souffrir par Christ. Donc, beaucoup d'opportunités. À la maison, si tu as une conférence, il y a assez peu d'opportunités de souffrir. Mais ce n'est pas vraiment des souffrances. Il n'y a pas tellement de souffrance dans une conférence. Par contre, quand tu rentres à la maison, alors là, tu vas expérimenter la souffrance. C'est vraiment ça pendant toutes les conférences. Mais rentre à la maison après la conférence. Parce que c'est là, quand tu lèves cet endroit, quand tu quittes cet endroit, que tu vas avoir beaucoup d'opportunités d'appliquer ce que le Seigneur nous a montré. Oui, le Seigneur, c'est la vérité.
Amen. And the Lord,
le Seigneur est en ce saint. Même Satan a essayé de le tirer en bas. On connaît tous Matthieu 4. L'Esprit l'a laissé dans le désert pour être tenté. Mais Satan a perdu. J'ai pas besoin de vous donner les détails de la tentation de Jésus-Christ. Mais à chaque fois, il a été vainqueur. Avec nous, la moindre tentation. Le verre s'est renversé. Il y a juste de l'eau.
Don't worry about it. It's just water. It'll dry, especially in this room.
On n'arrive même pas à résister à une petite tentation. Parfois, quelqu'un te dit juste une phrase et ça provoque une explosion en toi. Juste une phrase, particulièrement entre mari et femme à la maison. Juste une petite phrase et tu exploses. Tellement de réactions qu'on ne peut pas retenir. Même d'avoir faim. Juste le fait d'avoir
d'avoir faim. T'arrives même pas à résister. Ça fait 3 heures que t'as mangé et t'es déjà en train de mourir de faim. Alors que le Seigneur a tenu 40 heures. Toi, tu ne supportes pas 4 heures. Et t'en peux plus. Mais le Seigneur, après 40 jours, il a dit non. Je vais pas tourner cette pierre en pain. Pas juste un morceau de pain. Le Seigneur n'a pas eu besoin de faire ça. Il est même pas tombé dans cette tentation. Le Seigneur ne va pas nous envoyer dans des... Le Seigneur a pu résister, pardon, à la tentation. Et toutes les richesses de ce monde, ce n'est rien pour lui. Même en tant qu'homme, c'était rien pour lui. Mais nous, on n'arrive pas à résister. C'est pour ça qu'on a besoin de Christ. On a besoin d'expérimenter ce qu'il est pour être comme lui. Et dans Jean 16, il avertit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez de l'opposition. Vous aurez des persécutions. Mais ne craignez point, parce que j'ai vaincu le monde. Regardez l'opposition que le Seigneur a dû endurer. Une opposition terrible. L'hypocrisie, le mensonge. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de l'accabler. Mais le Seigneur a vaincu tout cela. Quel Christ merveilleux! C'est parce qu'il est le Saint. Il est celui qui est Saint. Pour apprécier un tel Sauveur, il n'est pas juste notre Rédempteur, il n'est pas juste mort pour nous. Mais avant de mourir sur la croix, il est passé au travers de tout ça. Il est passé au travers de tout ça avant d'aller à la croix. Et alors, le Père a dit, d'accord, je peux accepter ce que tu as accompli. Donc, ce que le Seigneur a fait pour le qualifier sur la croix, en tant qu'homme, il est passé par tellement de tentations. Et aucun homme sur cette terre aurait pu traverser tout cela. Louez le Seigneur. Et Hébreux dit, il a été perfectionné au travers des souffrances. Les souffrances ne sont pas négatives parce que on a la chair, on est déchu. Sans souffrance, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être perfectionné. Donc, ne fuis pas. Est-ce que tu as peur de souffrir? Est-ce que tu es sûr? Ne fuis pas. La souffrance, elle est nécessaire pour ta transformation. Fuir. Ah, la discipline, pardon, est nécessaire. La correction est nécessaire. Ne fuis pas la correction. La correction est très nécessaire pour être corrigé par le Père. N'aie pas peur de la correction. Elle est bonne pour toi. Elle est vraiment bonne pour chacun d'entre nous.
dans la vie chrétienne. Même des fois, d'être malade, c'est aidant. Des fois, t'es tellement mal, mais en fait, c'est une expérience de gagner, une opportunité de gagner Christ. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir quel Sauveur Saint nous avons. Toutes ces qualifications de celui qui est saint. Il l'a donné. Le Père l'a donné. Le Père nous l'a donné. Mais pas juste comme ça. Une fois qu'il avait passé par toutes ces épreuves, que nous ayons plus d'appréciation de celui qui est saint, du Fils qui est le Saint. Donc quand il est devenu un homme, c'était magnifique. Et quand il est monté au trône, il était le Saint des Saints, le souverain sacrificateur. Et il s'est assis sur le trône. Quel Christ merveilleux! Avec un tel Christ, tu crois qu'on ne peut pas y arriver? En tant que notre Sauveur, ce Saint Sacrificateur, ça c'est vraiment comment être comme lui. Mais si on plus on l'attrape et plus on va être transformé à son image, et alors on sera pleinement comme lui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme lui encore, parce qu'on ne le voit pas entièrement tel qu'il est. Mais quand il revient, quand tu le vois, alors on sera comme lui. Mais de gloire en gloire, plus on le voit, plus on sera changé à son image, plus on sera saint comme il est saint. C'est pas un enseignement. Ce dont on a besoin, c'est de le voir. Ce n'est pas un enseignement. Si tu aimes enseigner, ok. Quelle est ta doctrine préférée? Ce n'est pas une doctrine. Je n'ai pas de doctrine préférée. J'ai un Sauveur merveilleux qui veut la sainteté, qui veut que je le connaisse. Ce qui est meilleur que de connaître quoi que ce soit d'autre. Une chose que j'ai désirée dans les cieux, sur la terre, tout ce que je veux, c'est ce Dieu. J'ai pas d'autre désir que lui. Et dans sa maison, on doit désirer voir la beauté du Seigneur, sa sainteté, voir comment il nous transforme, ce merveilleux Christ, comment il veut nous changer par l'esprit à l'intérieur. Donc pour ça, il faut que les voiles soient retirés pour que tu comprennes les saintes écritures. Quand je viens à ce livre, j'ai pas envie de juste comprendre. J'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Ce n'est pas donner un message, c'est le connaître. avec un visage dévoilé. Et l'esprit va nous changer à son image. On peut s'arrêter là pour ce soir. Considérez cela, le méditer. Ce Christ merveilleux. Et plus voir dans la parole, au travers de ces quelques points, que ça nous aide à plus découvrir ce Christ merveilleux. Ensuite, les choses vont se passer dans ta vie quand la lumière brille en toi. Amen. Demain soir, on va parler de l'Esprit Saint. Amen. Louez le Seigneur. Les frères, demain matin, vont continuer avec le résumé. Et dimanche, on aura la fête. Et ensuite, peut-être encore un message. Et dimanche soir, de nouveau un message. Et ensuite, lundi matin. J'espère vraiment que le Seigneur peut ouvrir nos yeux, peut retirer les voiles pour que nous voyions. Oui, nous aimons cette parole. Pourquoi? Parce que c'est avec cette parole qu'on peut voir Christ. Tout à la fin de Luc, on voit que le Seigneur a ouvert les yeux des deux disciples pour leur montrer sur le chemin d'Emmaüs, pour leur révéler les prophètes et tout ce qui a été accompli, pour leur montrer que tout a été accompli en lui. Qu'est-ce qu'ils ont vu là? La loi? Non, ils ont vu Christ. Et dans Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Même juste dans Genèse 1, on voit déjà une figure de Christ. Pardon, je ne parle pas de Genèse. Quand on voit ces quatre créatures, on voit Christ, cet homme qui est tellement parfait. D'un côté, il y a le lion, de l'autre, il y a le bœuf. Et derrière, il a l'aigle. Mais il est vraiment la lumière. Tout dans ce chapitre et tout dans Genèse 1 est montré à l'image de Christ. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais on voit, même aussi dans Corinthiens, que Christ montre l'image du Dieu invisible. Et alors, dans Genèse, on voit que c'est le Dieu invisible, l'image du Dieu invisible. Et l'arbre de la vie. On doit vraiment voir ce Christ merveilleux. puisqu'on parle de la sainteté. On doit vraiment voir cela. Amen. On peut prendre encore le temps de prier.